Chers frères et sœurs et chers amis, nous arrivons à l'étude numéro 39. Et le titre pour aujourd'hui sera « Le peuple de Dieu doit absolument s'humilier ». Oui, l'humiliation est une condition de nos cœurs. Cela consiste à reconnaître que nous sommes totalement dépendants de Dieu pour agir par son Esprit Saint si nous souhaitons que notre nation soit guérie. Cela n'arrivera jamais par notre propre pouvoir, par nos propres plans, ni par nos propres efforts, ni par notre détermination. Cela ne se produira que par l'Esprit de Dieu. Zacharie chapitre 4 verset 6. Élançons-nous donc vers lui et disons, Seigneur, si tu ne fais rien, rien n'arrivera. Et lorsque Dieu agit, nous disons à toi, Seigneur, les louanges et la gloire. Nous pouvons nous humilier, nous affliger nous-mêmes par la prière et le jeûne. Nous pouvons nous abstenir de manger et pour un temps de prier et une discipline affectant le corps, la pensée et l'esprit est nécessaire. Dans un sens, c'est une mesure extrême montrant la sincérité, la profondeur et le sérieux de notre intercession. Nous pouvons nous humilier en nous prosternant devant Dieu dans la prière. Et nous avons aussi besoin de nous humilier devant autrui, non pour rechercher une gratification personnelle, mais seulement pour glorifier Dieu. Premier épître de Pierre, chapitre 5, versets 5 et 6. Deuxièmement, prier. La prière en soi est une forme d'humiliation personnelle. Prier, c'est reconnaître nos propres besoins et que chacun d'autre peut combler ses besoins. C'est implorer, supplier, demander sérieusement, quêter ou intercéder pour quelque chose. C'est la personne la plus basse demandant au plus grand. Voyez-vous, lorsque nous prions, nous admettons notre dépendance de Dieu. Je ne peux pas faire cela, mais toi, Seigneur, tu le peux. Jacques nous rappelle que la prière du juste a beaucoup de force quand elle est active. Active. Jacques, chapitre 5, verset 16. Jésus-Christ lui-même a dit, « Si deux d'entre vous se mettent d'accord sur la terre pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est dans les cieux. » Saint Matthieu chapitre 18 verset 19. Troisièmement, chercher la face de Dieu. La prière véritable implique la recherche de la face de Dieu, mais chercher Dieu est beaucoup plus que une simple demande. Oui, notre prière peut dégénérer si facilement en une liste de requêtes, tout simplement, alors que Dieu, il voudrait que nous le recherchions seulement pour ce qu'il est vraiment, et pas simplement pour ce que nous pouvons toujours demander et obtenir de lui. Lorsque nous cherchons Dieu, lorsque nous le connaissons mieux, alors notre prière gagne en efficacité parce que nous apprenons à connaître beaucoup mieux sa volonté et ses voies. Et quatrièmement, se détourner de nos voies mauvaises. L'Église a besoin de se repentir, les croyants ont besoin de se repentir, tous ceux qui se réclament de son saint nom ont besoin de se détourner de leur voie mauvaise, du péché et de tous les poids qui les tiennent éloignés. Un poids n'est pas un péché en soi, mais il nous éloigne de la possibilité de mieux le connaître et de le servir avec plus d'efficacité. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Le jugement commence par la maison de Dieu, c'est-à-dire l'Église, selon la première épître de Pierre, chapitre 4, versets 17 et 18. Et lorsque le monde constate le repentir des chrétiens et le changement de leur vie, il accepte de s'asseoir et d'écouter. Nous devons nous repentir également, repentir de l'hypocrisie, de la superficialité, de l'indifférence aux besoins physiques, mentaux, spirituels et moraux d'autrui, du péché de la chair, du péché de l'âme et de l'esprit. Nous avons besoin de mettre en avant l'amour unificateur de Jésus-Christ qui convaincra le monde, selon Saint Jean chapitre 13, versets 34 et 35, ainsi que Saint Jean chapitre 17, versets 20 et 1. Lorsque nous remplissons les conditions de Dieu, alors il accomplit, croyez-moi, toutes ses promesses. Alors Dieu, oui, Dieu écoutera. Quelle merveilleuse certitude de savoir que Dieu nous a écoutés. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Lorsque Dieu dit qu'il écoute, cela signifie que non seulement il sait l'objet de notre prière, mais qu'il y répondra également. Si j'avais vu du mal en mon cœur, eh bien le Seigneur n'aurait pas écouté. Psaume 66, verset 18, ainsi que Proverbe 28, versets 9 et 13. Cela signifie que bien qu'il connaisse l'objet de ma prière, il ne répondra pas à moins que je me détourne de mes mauvais chemins. Alors, il écoutera et acceptera. Il accédera donc aux pétitions qui lui sont faites. Ça, c'est clair et net. Ensuite, deuxièmement, Dieu pardonnera également notre péché. Car partout et n'importe où, là où il y a véritablement repentir et confession, eh bien, Dieu pardonnera notre péché, selon la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Si le peuple de Dieu confesse ses péchés collectivement et se détourne de ses voies mauvaises, alors Dieu pardonnera et bénira au lieu de punir. Reportez-vous au Lévitique, chapitre 26, et Deutéronome, chapitre 28. Ces deux chapitres montrent clairement la bénédiction de l'obéissance, le sort, la punition et le jugement de ceux qui persistent à désobéir. Que là où est le pardon, il y a le repentir. Si nous nous repentons, il est clair que Dieu va nous pardonner. Si nous ne nous repentons pas, par contre, le Dieu de justice doit évidemment punir. Voyez également 2 Chroniques, chapitre 7, verset 12 jusqu'au verset 22. Cela va nous faire comprendre tout ce que je viens de dire. Et troisièmement, Dieu guérira également son pays. Car dans la Bible, la guérison et le bien-être signifient beaucoup plus que simplement la simple guérison d'une maladie physique ou mentale, ce qui est déjà pas mal, mais il signifie également la guérison physique, mentale, spirituelle, sociale, matérielle, économique, etc. Il signifie la prospérité même sous les divers aspects de la vie d'une nation. Si l'individu remplit toutes ces conditions, il recevra la bénédiction de Dieu et le bien-être. Si une nation du peuple de Dieu remplit ces conditions, elle sera alors guérie et prospérera. Je guérirai son pays. lorsque le peuple de Ninive s'est conformé aux conditions de Dieu et qu'ils se sont repentis, Dieu n'a pas détruit la ville comme il avait menacé de le faire. Jonas chapitre 2. Nous, peuple de Dieu, pouvons déterminer le futur selon notre obéissance ou selon notre désobéissance, selon notre repentir ou selon notre manquement au repentir. Manquer de nous repentir, ça ne va pas nous aider beaucoup. Et notre prière est donc importante, comme l'absence de prière aura des conséquences. Notre foi ou notre incroyance joue un rôle. Les promesses et les jugements de Dieu dépendent de notre conformité ou à ses conditions. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. C'est la vie et la mort que j'ai placée devant toi, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre toi et ta descendance en aimant l'Éternel ton Dieu, en écoutant sa voix et en s'attachant à lui. Deutéronome chapitre 30 versets 19 et 20. Il se peut que dans notre nation, notre principal problème soit d'avoir oublié Dieu en pleine prospérité. Le matérialisme, le bien-être, les loisirs et le plaisir sont devenus nos dieux. Nous avons oublié le Seigneur qui nous a bénis de toutes bonnes choses. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu en n'observant pas ses commandements. Fais attention. Quand tu mangeras et tu te rassasieras, quand tu bâtiras de belles maisons et y habiteras, quand tu verras ton gros et ton petit bétail se multiplier, l'argent et l'or se multiplier pour toi, et tout ce qui est à toi se multiplier, alors prends garde que ton cœur ne s'élève pas et que tu n'oublies jamais l'Éternel ton Dieu. Prends garde de dire en ton cœur, c'est ma vigueur, c'est ma force, c'est mes mains qui m'ont acquis cette richesse. Alors, tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la vigueur pour acquérir de la richesse. Et si jamais il t'arrive d'oublier l'Éternel, ton Dieu, alors d'aller à la suite d'autres dieux, de les servir même et de te prosterner devant eux, je l'atteste aujourd'hui même contre toi, tu périras sûrement. Ceci pour n'avoir pas écouté la voix de l'Éternel ton Dieu. Deutéronome chapitre 8 versets 11 à 20, ainsi que le chapitre 6 versets 10 à 15. Repentons-nous donc de tous nos péchés, le péché de matérialisme, d'avoir oublié Dieu et de ne pas lui rendre grâce, gloire et louange pour tout ce qu'il nous a donné. Si nous voulons que notre nation soit prospère, qu'elle soit guérie, qu'elle soit exaltée, alors les conditions de Dieu sont simples et sans détour. La justice élève une nation, mais la honte des peuples, c'est le péché. Proverbe 14, verset 34. Que mon peuple se détourne du mal et s'humilie, et je guérirai son pays. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Priez pour leur nation. Pourquoi devons-nous prier pour la nation? D'abord parce que Dieu a dit et que mon peuple qui est appelé de mon nom, c'est-à-dire les chrétiens, qu'ils s'humilient et prient. S'ils cherchent ma face et qu'ils reviennent de leur voie mauvaise, moi j'écouterai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Si les chrétiens ne prient pas pour leur pays, qui le fera? Si nous ne prions pas pour notre pays, l'ennemi s'appropriera un jour ou l'autre notre pays. Ensuite, parce que Jésus-Christ a dit que si deux d'entre vous se mettent d'accord sur la terre pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est dans les cieux. Saint Matthieu 18, verset 19. Nous devons donc prier d'un commun accord ensemble dans nos prières à Dieu. Troisièmement, parce que, voyez-vous, la Bible nous dit « La prière du juste a beaucoup de force quand elle est active. » Jacques 5, verset 16. La prière a effectivement beaucoup de force. Nous donc, les chrétiens, avons la responsabilité et le privilège de prier pour notre nation et de faire agir Dieu pour nous et par nos prières surtout. Les puissances des ténèbres, ils peuvent être repoussés et la glorieuse lumière de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ va illuminer les païens et ceci en poussant beaucoup de ceux-là vers le Seigneur à la suite de notre prière fervente et efficace. Certains de nos prières d'intercession, ils seront, écoutez bien, pour beaucoup de choses telles que pour la nation, le gouvernement, nos villes, les médias, la maison, l'évangélisme, la moralité, les problèmes sociaux, les dénouements spirituels, l'Église, l'unité dans le corps de Christ, le réveil spirituel, pour la jeunesse, les enseignements de la Bible, la littérature chrétienne. Il y a en outre de nombreux dénouements pour lesquels nous avons besoin d'intercéder. Cependant, quel que soit le besoin et ce que Dieu inscrit dans nos cœurs, nous devons intercéder toujours. Nous pouvons ne pas toujours accepter les dénouements, mais nous devons tous prier suivant l'orientation et l'inspiration du Saint-Esprit. Romains 8, versets 26 et 27. Dans certains cas, nous voyons et nous réjouissons des réponses à nos prières. Dans d'autres, on peut dire nous prions avec ferveur, il faut le faire, mais nous ne connaîtrons jamais avec exactitude, au moins dans ce monde, comment Dieu a exaucé toutes nos prières. Il y a des choses qui nous seront révélées plus tard. Que nous assistons ou non à la réponse aujourd'hui, nous devons prier toujours et ne pas nous décourager, selon Saint Luc chapitre 18, verset 1. Donc, tenons-nous sur la brèche, prenons notre position d'autorité en Dieu, résistons à toutes les forces des ténèbres et donc, lions carrément l'homme fort, n'ayons pas peur, et libérons la force de Dieu dans une situation qui nous concerne de si près. Devons-nous prier pour, premièrement, les dirigeants? Prions pour le gouvernement, pour les dirigeants civils et spirituels. 1 Timothée 2, versets 1 à 2. Prions pour la justice dans notre pays et pour les améliorations qui pourraient y être apportées. Deuxièmement, pour nos villes. Prions pour la paix dans le pays, pour nos villes et contre la violence. Jérémie 29, verset 7. Troisièmement, pour l'Église. Oui, prions pour les pasteurs, les diacres, les anciens et autres chefs religieux. Prions pour l'unité et la proclamation de la foi. Prions pour le réveil spirituel au sein de l'Église et de la nation. Prions pour le repentir. Quatrièmement, pour l'évangélisation. Oui, prions pour les égarés, pour l'évangélisation et les organisations évangéliques, afin que beaucoup soient menés au Sauveur par l'Esprit Saint. Prions surtout pour les missionnaires qui sont au loin, souvent dans des pays avec des extrémistes hostiles à l'Évangile. Cinquièmement, prions pour l'industrie. Oui, prions pour les relations industrielles et pour les syndicats professionnels. Prions contre la paresse, contre la cupidité et contre l'anarchie, surtout. Sixièmement, pour les médias. Prions pour les programmes de la radio et de la télévision, spécialement pour les retransmissions religieuses. Prions pour les films, les livres, les magazines et les journaux. Prions pour que la vérité soit présentée et prions contre la pornographie, l'immoralité, etc. Septièmement, prions aussi pour la victoire sur les forces des ténèbres. Prions contre toutes les formes d'immoralité, contre les drogues, contre l'alcoolisme, les sciences occultes, et croyons surtout à la victoire, selon Matthieu, chapitre 18, verset 18, lorsque nous prions, il y aura la victoire. Huitièmement, pour la jeunesse, prions pour les jeunes de notre pays, afin qu'ils ne soient pas divisés, ou qu'ils ne soient pas, par exemple, pris de biais pour être déviés par Satan, mais qu'ils connaissent la vérité et soient convertis très tôt. Prions pour les écoles, les collèges, les universités, les écoles d'enseignement biblique. Neuvièmement, prions aussi pour la justice sociale. Prions contre toutes les injustices sociales, raciales, et contre toutes sortes de discriminations, donc prions pour la justice sociale et légale. Dixièmement, prions aussi pour les familles. Prions pour nos maisons et nos familles, afin que le mariage soit maintenu dans l'honneur. Prions contre les séparations familiales et toutes leurs conséquences. Onzièmement, prions pour les organisations missionnaires. Prions pour que tous ceux qui vont à l'étranger afin de partager l'évangile avec les égarés. Prions pour ceux qui sont persécutés à cause de leur foi et pour ceux qui servent le Seigneur dans les pays musulmans extrémistes. Et douzièmement, prions pour la littérature chrétienne. Prions pour la rédaction et la distribution de littérature chrétienne, spécialement pour la parole de Dieu. Prions pour la mise en valeur des principes chrétiens, comme il est écrit dans la parole de Dieu. Oui, prier pour le gouvernement est également important. J'exhorte donc avant tout à faire des demandes, prières, sollicitations, actions de grâce pour tous les hommes, pour les présidents et tous ceux qui exercent l'autorité afin que nous puissions mener une vie calme et pénible, paisible surtout, excusez-moi du pénible, donc une vie calme, sereine, tranquille et en paix, la paix également du travail et toute piété et dignité. Cela est bon. Et cela plaît au Seigneur. Qui veut, le Seigneur, il veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. Selon 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 à 4. Aussi, ce passage nous intime l'ordre de prier pour nos dirigeants et pour ceux qui exercent l'autorité sur nous. Pourtant, nous le faisons assez rarement. Je dois dire que je ne me trompe pas beaucoup si je dis que nous le faisons peut-être même très rarement, alors que ça devrait être primordial. Dans un sens large, nous avons le gouvernement et nous avons les autorités que les chrétiens méritent, puisque nous avons le pouvoir, au travers de la prière, de déterminer qui nous dirige. Une multitude d'exemples bibliques nous montrent que les dirigeants et les nations païennes peuvent être éjectés par la prière, les ennemis peuvent être renversés, les présidents et les dirigeants injustes peuvent être détrônés pour que la croyance et la paix soient réinstallées à l'issue de notre prière fervente, unie et persuasive. Seuls les chrétiens peuvent agir ainsi. Et donc, nous avons la responsabilité de prier. Jésus-Christ a dit que les chrétiens sont le sel de la terre. Saint Matthieu 5, verset 13. Si notre pays n'est pas guéri par notre présence et nos prières, cela signifie tout simplement que notre sel a perdu de sa saveur. Ses qualités essentielles sont le goût et la capacité à conserver. Le sel est utilisé pour relever le goût et nous devons donc apporter un goût chrétien à notre communauté et nation, apporter le meilleur au sein de la société. Le sel sert aussi à conserver, à stopper le pourrissement des choses. De même, la présence de chrétiens dans le monde devrait éviter que les choses empirent. Nos prières et nos efforts à maintenir les standards de moralité, de décence, d'honnêteté, de paix et de religiosité devraient être visibles dans notre nation. Nous devrions barrer la route à toute forme de corruption morale, sociale, spirituelle et politique, car voici le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, s'il débute par nous, quelle sera la fin de ceux qui refusent de croire à l'évangile de Dieu? 1 Pierre chapitre 4 verset 17. Si notre pays n'est pas guéri et que notre nation s'est détournée de Dieu, il faut en incomber, donc il faut en donner la faute, il me semble, au peuple de Dieu. Notez tout simplement Ézéchiel chapitre 20, chapitre 33, versets 1 à 9. Je répète, Ézéchiel 33, versets 1 à 9. Donc, nous sommes, nous, les chrétiens, totalement responsables. À quand remonte notre dernière prière pour notre premier ministre, pour notre président ou pour les membres de notre gouvernement? Je vous le demande. Avons-nous passé notre temps à les critiquer ou à prier pour eux? Je pense que nous faisons que critiquer, mais jamais nous prions pour eux. Si nous les critiquons moins et que nous prions plus souvent pour eux, nous aurons moins de critiques à formuler. Le peuple de Dieu doit donc faire quatre choses. Et nous trouvons cela dans Chroniques chapitre 7, verset 12 jusqu'au verset 18. Là, il est indiqué que si notre nation souffre de la sécheresse, d'épidémie ou même de maladie, alors le peuple de Dieu doit faire les quatre choses suivantes. Premièrement, s'humilier. Deuxièmement, prier. Troisièmement, chercher la face de Dieu. Et quatrièmement, se détourner de ses voies mauvaises. Ayant agi ainsi, Dieu écoutera nos prières et y répondra. Il écoutera des cieux, il pardonnera notre péché et il guérira notre pays. En outre, nous devons nous identifier au péché de notre pays. Il ne suffit pas seulement de dire « Seigneur, le peuple de notre pays a péché ». Il faut spécifier au contraire « Seigneur, nous avons péché ». Nous devons aussi confesser les péchés exacts de notre nation, tels que l'immoralité, l'injustice, l'alcoolisme, la dépendance à la drogue, le spiritisme, la violence, le meurtre, la négligence envers Dieu, etc. Nous devons reconnaître que bien que Dieu haïsse le péché, il aime les pécheurs et notre aversion doit de même être tourné contre le péché et non contre le peuple. Nous devons reconnaître que bien que nous soyons entièrement responsables de notre péché, des forces spirituelles démoniaques sont derrière la tentation et le péché et qu'elles s'opposent évidemment à la bonne santé de notre nation. Nous combattons les principautés et des puissances démoniaques, et nous avons donc besoin d'armes spirituelles dotées de pouvoir et d'autorité divin pour vaincre la forte résistance de Satan. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 6. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 12 énumère 4 catégories de puissance et d'autorité spirituelle, toutes opposées carrément à ce qui est bon. Premièrement, les principautés. Une principauté est une zone, une ville ou même une nation dirigée par des princes de démons. Il s'agit ici d'un prince satanique, les gens anges déchus. Et là, il y a des catégories de grande puissance. Deuxièmement, les pouvoirs, les autorités. Ce sont les zones gouvernées et régentées par des autorités spécifiques, civiles ou nationales, et qui sont sous le contrôle des forces démoniaques. Troisièmement, les souverains de ce monde de ténèbres. Et quatrièmement, nous avons les esprits pervers qui sont dans les régions célestes. La traduction grecque nous dit littéralement que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits pervers qui sont dans les régions célestes. Derrière toute nation, tout royaume, toute ville, il y a une principauté ou une force spirituelle démoniaque. Il peut s'agir d'un esprit d'impureté, un esprit de luxure, de corruption, de violence ou de sorcellerie. Il peut aussi s'agir d'autres esprits insensés et mauvais qui diffèrent d'une ville à l'autre. Ces forces spirituelles et démoniaques doivent être anéanties par la prière si nous voulons assister un jour à une percée importante de l'Esprit de Dieu dans cette nation ou cette ville. Par exemple, les rois et princes de Tyr dans Ézéchiel au chapitre 28, ce sont purement et simplement Satan et ses anges en personne. Derrière le royaume visible de Tyr se cachent les souverains de ce monde de ténèbres, Satan et ses hôtes démoniaques. Les affaires du royaume visible sont affectées par les forces du royaume invisible. Derrière chaque royaume, chaque nation, chaque ville même, il y a des hiérarchies invisibles. Le démon pervertisse. En effet, le démon pervertissant carrément, et il peut amener l'impureté sexuelle et la luxure, il peut amener la violence, la sorcellerie, etc. Avant que le royaume de Dieu fasse une véritable percée, eh bien il faut que ces puissances-là, ces puissances démoniaques, soient assujetties carrément par la prière et s'il le faut, par le jeûne. Lorsque cela se produit, alors là, Dieu agit avec beaucoup de puissance. Mais si nous ne sommes pas préparés à prier, eh bien, nous ne verrons pas du tout la percée que nous espérons. Prions donc Dieu, car celui, le Seigneur Jésus-Christ, qui est en vous, il est bien plus grand que celui qui est dans le monde, le diable, selon la première épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 4. En d'autres termes, nous avons pouvoir et autorité par Christ d'anéantir carrément la force résistance de l'ennemi, d'enchaîner même les œuvres des ténèbres et de libérer notre nation des liens spirituels. Selon Matthieu 18, verset 18 à 20. Et nous pouvons agir également par la prière dans beaucoup de domaines, les portes, les défenses de l'enfer ne prévaudront pas contre les assauts d'une église combative et une église fervente, Matthieu 16, verset 18. Donc, si Dieu avait trouvé 10 hommes, seulement 10, qui auraient été justes à Sodome et Gomorre, il ne l'aurait pas détruite. Mais, selon les Écritures saintes, il n'en a pas trouvé, même pas 10. Genèse, chapitre 18, verset 16 à 33. Dieu cherchait un intercesseur, mais il n'en a trouvé aucun. Il a vu qu'il n'y avait personne et il a été stupéfait de ce que personne n'intervienne. Isaïe, chapitre 59, verset 16. J'ai cherché parmi eux un homme qui construisit un mur et qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays. Mais je n'en ai pas trouvé un seul. Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Donc, nous devrions être choqués à la vue du diable dans notre pays, et cela devrait nous pousser à intercéder. Savez-vous que presque dans chaque ville maintenant, il y a des églises de Satan ? Eh oui, évidemment, ce n'est pas propagé par les journaux et les télévisions, vous pensez bien, mais on le sait. Les prières d'un seul homme peuvent même modifier l'idée de Dieu à propos d'une nation entière et à propos même de sa destinée. Au risque de sa vie, par exemple, Esther, elle a intercédé pour son peuple et elle a modifié le destin des Juifs. Satan a toujours haï le gouvernement et l'autorité, aussi au ciel, avant d'être jeté sur la terre. Il s'est rebellé contre l'autorité de Dieu. Isaïe chapitre 14, versets 12 à 15, ainsi que Apocalypse 12, versets 7 à 10. Dans le jardin d'Éden, il a sapé l'autorité en tentant Ève. Genèse 3, versets 1 à 7. Et lorsque Satan est parvenu à égarer celle qui aurait dû être soumise à l'autorité, eh bien Ève a même entraîné Adam dans le péché. Satan attaque le gouvernement et l'autorité au sein de la maison, à l'école, dans l'église et même dans la nation. Lorsqu'il a tenté d'usurper l'autorité dans les cieux, eh bien, il a entraîné toute une hiérarchie d'anges dans sa chute. Et ces anges déchus sont les diables et les démons qui nous attaquent encore de nos jours, qui nous tentent, qui nous égarent et qui essayent de saper l'autorité. Aujourd'hui, l'esprit de rébellion pousse encore les hommes à refuser de se plier à l'autorité. Croyez-vous que c'est terribles bouleversements qui sont maintenant tous les jours, qui ont lieu dans les villes, que ce soit Marseille, Paris, Lyon, etc., où les jeunes cassent tout, les vitrines, ils dérobent tout ce qui s'y contient, hein, et ils, même des propriétaires qui ont travaillé toute leur vie perdent tout d'un seul coup. Donc, tout cela, c'est l'œuvre de l'ennemi. Ce sont les puissances qui se déchaînent. Et là, dans chaque ville importante, il y a des princes des démons qui ont des pouvoirs incroyables. Et l'autorité des chrétiens vient du trône de Dieu. Et en conséquence, le diable fera tout ce qu'il peut pour nous empêcher de nous approcher du trône de Dieu. Satan, Lucifer, s'est déjà tenu devant le trône et il sait ce qui en découle. C'est pourquoi il attaquera spécialement tous ceux qui sont au courant de leurs accès au trône et de leurs droits. Exemple 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 10. Oui, il essayera, croyez-moi, de saper toute autorité. Si nous en sommes informés que nous restons ancrés dans notre autorité en Christ et que nous venons régulièrement au trône de Dieu en prière, l'ennemi n'a plus aucune autorité sur nous. Christ a désarmé les principautés et les pouvoirs. Il en a fait un exemple public en triomphant d'eux sur la croix. Alléluia. Colossiens 2, versets 13 à 15. Donc le diable tentera de nous égarer en nous faisant croire autre chose. Mais si nous connaissons et proclamons la vérité, nous serons libérés et les principautés et les pouvoirs sont nos sujets si nous connaissons notre autorité en Christ. Il est arrivé que Daniel le prophète, qu'il prie pendant 3 semaines, mais le diable empêchait ses prières d'être exaucées jusqu'à ce que l'archange Michel le combatte et soit vainqueur. Daniel chapitre 10, verset 10 jusqu'au verset 21. C'est très intéressant de lire cela. Les prières de Daniel étaient donc retenues par le diable. Mais lorsque la bataille a été gagnée, quand elle a été gagnée, alors la prière de Daniel a été totalement exaucée. Gloire à Dieu. Nous pouvons lutter contre l'injustice par l'intercession. Et nous pouvons provoquer la libération d'un déluge de justice en priant pour notre gouvernement. Nous pouvons vaincre les principautés et pouvoirs démoniaques. Cependant, nous devons prier spécifiquement pour des situations et pour un peuple. Et nous découvrirons ensuite la réponse dans les journaux. Par la prière, nous avons le pouvoir d'orienter la législation, de choisir des dirigeants croyants, etc. Nous pouvons libérer la force angélique et la force de l'Esprit Saint pour ces situations-là. Dieu nous commande d'être assujettis aux autorités gouvernementales et de les honorer, Romains 13, versets 1 à 5, ainsi que la première épître de Pierre, chapitre 2, versets 13 à 17. Mais il veut par-dessus tout que les autorités qui nous gouvernent ne soient pas opposées à une bonne mise en train, donc, et à une mauvaise conduite qui, naturellement, serait pas bienvenue. Donc, nous devons faire le bien et il vous approuvera, Dieu nous approuvera si nous faisons le bien, car il est le Seigneur au service de Dieu, son Père, pour notre bien et pour exécuter toute sa fureur sur le méchant. Et oui, et les dirigeants sont donc envoyés par Dieu afin de punir les mauvais et de louer ceux qui font le bien. C'est ce type de dirigeant que Dieu voudrait, que Dieu veut que nous ayons. Pour cela, nous devons prier pour qu'il en soit ainsi. Prions donc pour le président, le premier ministre, les membres du gouvernement, les diplomates et les ambassadeurs, les représentants de la loi, la police, les douaniers, les juges aussi, les magistrats et les jurys, pour les maires, les conseillers municipaux et les autorités civiles. Oui, et sans oublier tous les pasteurs, tous ceux qui ont charge d'âmes, prions afin qu'ils élèvent toujours les principes de justice de Dieu et qu'ils prônent Christ sans aucune peur et qu'ils n'aient pas honte de leur foi chrétienne. Prions pour tous ceux qui détiennent une autorité quelconque. Quelques exemples d'hommes de prière ayant affecté carrément des rois. Ça, c'est intéressant pour comprendre. Nous avons Ézéchias et Isaïe, ils ont, par leur prière, carrément repoussé l'armée de Sennachérib. Dans 2 Rois, chapitre 19, verset 1 à 37. B, nous avons la prière de Daniel, qui a poussé Cyrus à renvoyer les Juifs dans leur pays. Daniel, chapitre 9, verset 3 à 19. C, nous avons les prières de Néhémie, qui ont poussé Artaxerxès à reconstruire les murs de Jérusalem, Néhémie 1, verset 4 à 2, et verset 6. D, nous avons les prières d'Élie, qui ont stoppé la pluie pendant 3 ans et demi, et ont conduit Achab à permettre que tous les prophètes de Baal soient carrément mis à mort. 1 Roi, chapitre 17, verset 1 à 19, ainsi que Jacques 5, verset 16 à 18. Et nous avons les prières de Josué. Ils ont immobilisé, ces prières-là, le soleil et la lune. Et ceci pour le temps que les Amoréens soient totalement anéantis. Ça se trouve dans Josué, chapitre 10, verset 12 à 14. F, nous avons les prières de Moïse, qui ont provoqué l'ouverture de la mer Rouge, permettant aux Juifs d'échapper aux Égyptiens et anéantissant carrément ces derniers. Exode 14, verset 10 à 31. Oui, nous devons prier pour l'Église, car voici le moment où le jugement va commencer par, évidemment, la maison de Dieu. Or, s'il débute par nous, quelle sera la fin de ceux qui refusent de croire à l'évangile de Dieu? Je vous le demande. Que si le juste ne se sauve qu'à grand-peine, eh bien l'impie et le pécheur, où se montreront-ils? 1er épître de Pierre 4, versets 17 à 18. En qualité de chrétien, et faisant partie de l'Église de Jésus-Christ, il est dit que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre, selon Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. Donc si le monde est dans les ténèbres, c'est que la lumière du monde ne brille pas. Si le monde est mauvais, c'est que le sel de la terre a perdu sa saveur. Chrétiens, nous devons absolument prier pour l'Église. L'Église ne favorise ni n'exauce jamais le péché. Elle ne va jamais être d'accord d'excuser le péché. Ça serait le comble. Néanmoins, de quel droit l'Église condamne-t-elle le péché ou le pécheur plutôt que d'exercer le pouvoir par lequel le peuple peut être libéré du péché, puis trouver la délivrance et le pardon? Si nous sommes incapables de fournir des réponses pratiques aux problèmes des hommes, alors nous n'avons pas le droit de les condamner ni de les critiquer pour leurs péchés et leurs dépravations. Les églises locales ont des besoins et des attentes très variées. L'intercession pour notre église locale sera donc différente d'une personne à une autre, d'une église à une autre. Les données suivantes représentent cependant les domaines principaux pour lesquels nous avons besoin d'intercéder en faveur de l'église de notre pays. Premièrement, nous avons l'unité. Prions pour l'unité entre et au sein des églises locales, psaume 133, verset 1 à 3, et Saint Jean, chapitre 17, verset 20 à 23. Prions également pour un esprit d'unité au sein de l'Église. Il peut régner une impression d'unité et d'union, alors qu'en réalité, un esprit de désunion règne. Et ça, c'est une réalité, malheureusement. Deuxièmement, les pasteurs. Eh bien, prions pour les pasteurs et les chefs religieux. Prions spécialement pour ceux d'entre eux qui ne sont pas convertis. Il y a des pasteurs qui ne sont pas convertis, pas sauvés. Hein? Ils prêchent simplement comme ils prêcheraient une philosophie quelconque. Et tous ces libéraux, ces progressistes, et voire même ces agnostiques, prions pour leur salut ou leur destitution carrément. Là, vous pouvez voir Ézéchiel chapitre 34. Prions afin que les pasteurs et d'autres chefs religieux connaissent la bénédiction divine et l'autorité de leur tâche. et qu'ils n'aient pas peur d'user de leur autorité accordée par Dieu. Saint Jean chapitre 20, versets 21 et 22. Donc, prions pour que la parole de Dieu soit prêchée avec force et autorité et qu'elle soit vive et tranchante, comme une épée affilée dans les mains de professionnels. Hébreux chapitre 4, versets 12 et 13. Prions pour le retour de la foi et pour le rejet de l'incroyance. Troisièmement, nous avons à prier pour le déversement de l'Esprit de Dieu. Prions pour que Dieu déverse son Esprit Saint sur toute chair, selon Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 17 et 18. Et qu'il restaure les dons spirituels de l'Église. Oui, ça c'est très important. Donc, qu'il restaure carrément les dons spirituels de l'Esprit Saint dans l'Église. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 11. Sachez que Dieu veut que tous ses enfants soient constamment remplis d'Esprit Saint. Éphésiens 5, verset 18. Et que nous utilisions les dons qu'il nous a accordés, selon 2 Timothée chapitre 1, versets 6 et 7. Si l'Église doit avoir la vie, doit avoir le pouvoir et l'autorité, alors ses membres doivent être remplis d'Esprit Saint et exercer les dons et le pouvoir que Dieu leur a donné. Quatrièmement, prions pour la justice. Prions pour la justice et la vie sainte au sein de l'Église. L'Église doit montrer l'exemple au monde. Or, l'hypocrisie n'est pas du tout un bon exemple, à moins que l'Église puisse montrer au monde des vies qui ont été transformées par le pouvoir de Dieu. Quel exemple montre-t-elle? Cela devrait être l'occasion de rendre grâce à Dieu. Après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de tout cœur à la règle de doctrine à laquelle vous avez été remis. Libéré du péché, vous vous êtes asservi carrément à la justice, selon Romains 6, versets 17 et 18. Donc, prions pour que l'Église soit puissamment affectée et qu'elle ait une nouvelle moralité et que les lois de cette nation, par ses prières, soient donc de nouveau revivifiées, remis en quelque sorte à neuf, à une véritable justice. Cinquièmement, prions pour une Église qui prie. Alors oui, alors une Église qui prie, il y en a beaucoup qui prient plus du tout, hein, qui n'ont jamais de réunion de prière. Ça, c'est très grave. Nombreuses sont les églises qui n'ont pas d'office hebdomadaire et nombreuses sont les familles chrétiennes qui ne prient pas du tout. Hein? Beaucoup de chrétiens prient même très rarement. Prions pour une église qui prie. La prière est le secret du succès de l'église victorieuse. La prière est la principale arme spirituelle. Jésus-Christ a enseigné à ses disciples une parabole dans le but de montrer qu'il leur fallait prier toujours et ne pas se décourager et ne pas simuler. Saint Luc chapitre 18 verset 1. Beaucoup d'églises sont totalement découragées. Elles pourraient renaître par la prière. Donc, prions à cette attention-là. Sixièmement, nous avons une église qui va mal. Donc prions pour une église qui donne. Car voyez-vous, la prospérité, elle ne consiste pas seulement à prendre, mais aussi à donner. Quelle église prospère ce serait, hein, si ses membres apprenaient à vraiment donner? Ça ne veut pas dire qu'il faut donner ce qu'on n'a pas. N'essayez pas de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais nous devons aider, donner aux œuvres caritatives, aux pauvres, etc. Seulement selon nos possibilités. Nous ne devrions jamais donner dans l'intention de recevoir en retour le double ou 10 fois plus. Néanmoins, Dieu a tout de même promis, donnez et on vous donnera en retour. Luc chapitre 6 verset 38. Mais il ne faut pas que ça soit fait dans cette intention-là. Prions aussi pour que l'Église soit généreuse et elle ne manquera jamais de fonds pour tout ce que Dieu veut qu'elle fasse. Septièmement, prions pour une Église soucieuse de tous ceux qui sont persécutés. Dans les pays musulmans, dans les pays extrémistes par exemple, l'Église est persécutée. Prions pour nos frères et sœurs en Christ qui sont persécutés pour leur foi et aussi pour les non-chrétiens de ces pays-là, afin que Dieu y provoque le réveil spirituel et en rallie beaucoup à sa cause. Nous pouvons être émus à distance, c'est déjà pas mal, mais il ne faut jamais oublier de prier pour ceux qui sont entravés et de souffrir pour ceux de nos membres qui souffrent et de prier pour que le pouvoir et la force surnaturelle de Dieu les accompagnent. Selon Éphésiens 6, versets 18 et 20, ainsi que Hébreux chapitre 13, verset 3. Et huitièmement, pour terminer, nous avons les cinq tâches principales de l'Église qui sont les suivantes. Voyons cela ensemble. Nous avons l'évangélisation qui, pour conduire les égarés vers Jésus-Christ. Donc, je répète, l'évangélisation afin de conduire les égarés vers Christ, selon saint Matthieu, chapitre 28, versets 18 et 20, et selon saint Marc, chapitre 16, versets 15 à 20. Nous avons l'association et le culte, fédérer l'association et le culte des croyants, selon Hébreux 10, versets 23 et 25, et Actes, chapitre 2, verset 42. Nous avons l'enseignement et la discipline, enseigner à ceux qui doivent venir à Christ, 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Nous avons la vision missionnaire mondiale. Oui, une vision large, selon Matthieu 9, versets 35 à 38. Nous avons l'implication sociale, une implication pratique pour le bien-être des pauvres, des malades et des nécessiteux. Jacques 2, versets 14 à 17, ainsi que Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 32 à 35. La plupart des églises ont un concept totalement erroné de ce que l'Église devrait faire. Donc, prions pour que Dieu restaure la vision du Nouveau Testament dans l'Église. Prions afin pour que l'Église soit honorée. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 41 à 47, et chapitre 5, versets 11 à 16. Prions pour qu'elle soit militante et combative envers les puissances des ténèbres et qu'elle anéantisse les portes de l'enfer. Saint Matthieu chapitre 16 verset 18. Prions pour qu'elle soit véritablement la lumière du monde et le sel de la terre. Chers amis, nous allons terminer ensemble dans la prière. Et j'aimerais que vous puissiez, de temps à autre, réécouter une de ces nombreuses études, parce que cela va vous édifier et vous approcher encore beaucoup plus du Seigneur. Prions maintenant. Ô notre Père, béni sois-tu, toi, qui, de siècle en siècle, appelle tous ceux que tu veux consacrer à ton service. Toi qui as conduit ton propre fils à un baptême qui fut pour lui une onction royale et le gage de sa vocation. Nous te rendons grâce pour nous avoir conviés, nous aussi, à devenir les disciples de ton Fils bien-aimé. Accorde-nous d'écouter ton appel d'un cœur sincère et de lui demeurer fidèle avec l'aide de ton Esprit Saint. Fais-nous sentir de plus en plus ta puissance. Conduis-nous de foi en foi, de clarté en clarté, et laisse-nous enfin contempler ta magnificence dans ton céleste royaume. Amen. Et chers amis, sachez que tous ceux qui ont un jour accepté Christ comme leur sauveur, ceux-là sont ses fils et ses filles. Ils vous aiment. Soyez donc bénis et à bientôt à nouveau. Au revoir, mes très chers amis.